Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Soyez bénis. Nous sommes heureux d'être ensemble, de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, les yeux, le regard tournés vers Jésus, celui de qui tout nous vient. Amen. Alors, connaissez-vous le fléau le plus destructeur dans ce monde? Connaissez-vous le fléau le plus destructeur dans ce monde? La mort, les écrans, le péché, la maladie, c'est déjà pas mal, hein? L'IVG, la guerre, le manque d'amour, le mensonge, ah ben, la haine, waouh, je vais plus avoir à prêcher. Le rejet, ouais. Mais c'est vrai que à l'origine de tout cela, il y a le péché. C'est bien le fléau le plus destructeur dans ce monde. C'est la source de tous les désordres parmi les hommes, non? Et pourtant, personne n'en parle. Ou si peu. Et n'attendons rien des médias à ce sujet. Ce n'est pas eux qui vont en parler. Mais pour nous chrétiens, qu'en est-il? Ne parle-t-on pas le plus souvent de nos préoccupations quotidiennes? Maladie, infirmité, vieillesse, solitude, précarité, chômage, soucis familiaux, la liste est longue, hein? Alors, rechercher des solutions, combattre dans ces différentes épreuves est normal et légitime. Chercher du secours auprès de Dieu, dans ces cas, est conforme à sa parole. Cependant, le péché, problème commun à toute l'humanité, donc à chacun de nous, hein, est bien plus important. Mais rarement considéré comme tel, et pas toujours combattu avec toute l'énergie nécessaire. D'ailleurs, la Bible, elle ne dit pas que Jésus est venu pour ôter nos problèmes et nos difficultés quotidiennes. Non. Mais que Jésus est venu, comme Jean-Baptiste le déclare, « Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. » Et Jésus confirme en disant « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10. Quant à Jean, il écrit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché du monde et il n'y a point de péché en lui. » 1 Jean 3, 5. Et ces références sont très nombreuses dans la parole. Alors on peut se réjouir tout de même. On peut se réjouir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, et vous voyez, j'ai mis en gros croix, car c'est le point central, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque croira en celui qui est paru pour ôter le péché ne périra pas, mais a la vie éternelle. Amen. Christ est la solution au péché. Alors c'est pourquoi nous allons poursuivre sur le thème que j'avais commencé voilà quelques mois et qui était Christ, notre fondement, et notamment le péché que nous avions commencé à partager comme thème la dernière fois que je suis intervenu. Et pour resituer notre dernier partage, nous nous étions intéressés à cette parole que Jésus dit à la femme adultère juste après l'avoir sauvée d'une mort certaine. Vous vous souvenez de cette parole ? C'était « Je ne te condamne pas, va et dorénavant ne pêche plus ». Il y en a qui ont bien retenu, c'est bien. Jean 8, verset 11. Et on retrouve aussi la même injonction de Jésus envers le paralytique de la piscine de Bethesda, auquel il dit « Te voilà maintenant guéri, ne pêche plus désormais ». Et la parole vivante dit « Désormais, veille, veille à ne plus pécher ». Jean 5, 14. Veille, ça veut dire quoi ? Sois vigilant. Ne te relâche pas. Veille. Alors pourquoi Jésus répète-t-il cela avec insistance ? Il insiste, hein ? Parce qu'il sait que Dieu déteste le péché par-dessus tout. C'est la parole qu'il dit. Et que c'est la raison pour laquelle lui, Jésus, a été envoyé. C'est bien l'acte d'amour par lequel Dieu a voulu rétablir la relation entre lui et nous en ôtant le seul obstacle qui faisait barrage. Quel est-il ? Le péché. Ce problème qui détruit la société humaine et qui pourtant est aujourd'hui largement banalisé. Non ? Parfois même légalisé. Parfois même constitutionnalisé. Mais souvent objet d'un grand laxisme, d'une grande légèreté dans tous les milieux. Mais au fait, qu'est-ce donc que le péché ? Qu'est-ce que c'est que le péché ? Si on vous demandait une définition du péché, rater sa cible, ok ? Faire le mal, désobéissance. Ah, il y a des bonnes définitions déjà là. Comment ? Faire ce que l'on ne veut pas faire. Oui, c'est déjà bien. Certains l'ont dit, hein. Et certains, et la définition la plus largement répandue, c'est le fait de vivre ce qui est mal. Et quand les gens disent ça, c'est à leurs yeux. Où chacun définit un peu le péché comme ça l'arrange, plutôt tolérant avec lui-même, se disant « Bon, je suis pas pire que les autres, tout le monde pêche, tout le monde est imparfait. Voilà. Hein. Je suis quand même pas si mal. » J'ai même souvent entendu parmi les chrétiens évoquer des paroles de Paul et de Jean qui prouveraient à leurs yeux que péché est inévitable. Nous y reviendrons. Mais au fait, comment Jésus définit-il le péché ? C'est Jean qui écrit. Quand le Saint-Esprit sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché. C'est le Saint-Esprit qui prouve la réalité du péché. Il leur fera prendre conscience de leur péché, qui consiste à quoi ? À refuser de croire en moi, c'est-à-dire de refuser de croire en Jésus. Jean 16, 9, dans la parole vivante. Donc là, Jésus nous dit que le péché, en fait, c'est refuser de croire en lui. Alors, croire en Jésus. Donc, en qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Fils unique, envoyé de Dieu. Unique sauveur. Unique médiateur entre Dieu et les hommes. Sans avoir besoin d'en rajouter d'autres, puisqu'il est l'unique médiateur. Croire en ce que Jésus dit, toute la parole, sans rien y rajouter, ni rien en retrancher. Et enfin, croire en ce que Jésus fait, c'est-à-dire toute son œuvre, sans rien en retrancher là non plus. Ainsi, péché, qui est refusé de croire en Jésus, c'est de refuser de croire ce que l'on vient de dire, en tout ou partie. Jean dira, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. 1 Jean 3, verset 4, dans la parole de vie. Romains 12, 9 dit d'ailleurs la même chose. Eh bien, détester le péché, comme on l'a vu, psaume 97, 10 dit, vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal, donc le péché, en horreur. Psaume 97, 10, second 21. Alors, détester le péché, c'est finalement une des premières motivations pour pouvoir nous tenir éloignés de lui. Si je ne le déteste pas, je ne pourrai pas me tenir éloigné de lui. Non ? Comme ainsi nous y exhorte Hébreux 12, 1, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous enlace si facilement. Hébreux 12, 1, parole vivante. Cet épître s'adresse à des chrétiens convertis, c'est-à-dire donc ayant confessé le plan de salut rappelé par Paul dans Romains 5, verset 8, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est bien le plan de salut de Dieu, ça. « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ça aussi, le fait que Christ est mort pour nous, afin que nous soyons libérés du péché, c'est bien une autre forte motivation pour nous tenir éloignés du péché, non ? Donc deux motivations. Une, détester le péché. Deux, Christ est mort pour nous. C'est des motivations assez solides, hein, pour nous tenir éloignés du péché, non ? En plus de ça, donc, c'est bien là le merveilleux plan de salut de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Christ est mort pour nous afin de nous arracher à l'esclavage et nous libérer du péché. Alors ce n'est pas pour nous laisser de nouveau dominer par lui, ni volontairement y retourner. Non ? Autrement dit, si nous avons été lavés de tout péché, sanctifiés, ben c'est pour être et rester propre. Non ? Et Paul poursuit dans Romains 6, verset 11. Ainsi, puisqu'on a parlé donc que Christ est mort pour nous, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Christ est mort pour vous, mais vous maintenant, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 11 et 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et je précise encore que Paul là exhorte ici des chrétiens nés de nouveau. Donc nous aujourd'hui. C'était les chrétiens de l'Église de Rome. Alors, que dire de cette parole qui est tellement claire ? Elle est portée à cette parole ? Et comment, après nous avoir ainsi exhortés, comprendre Romains 7, versets 14 et 15, quand Paul nous dit « Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Romains 7, 14, 15. Nous dit-il, par là, faites ce que je vous dis, mais moi j'en suis incapable. Ce serait totalement incohérent, non? Et irresponsable de sa part, non? Suite à ce que j'ai dit dans Romains 6. Et pourtant, cette déclaration de Paul, sortie de ce contexte, amène certains à se dire, bah, si même Paul nous dit qu'il est vendu au péché, qu'il fait ce qu'il déteste, alors comment moi, petit chrétien, pourrais-je lutter? Même Paul n'y est pas arrivé. Et voici comment l'ennemi utilise cette parole pour nous anesthésier. Parole sortie de son contexte. Ça me rappelle beaucoup comment Satan a fait tomber Ève en lui disant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Mais non. Quand Paul dit je, là, il dit ma chair veut. Autrement dit, mon être naturel veut. Ma nature charnelle veut. Mon ancienne nature veut. C'est ça le je. Et si nous remplaçons ainsi le je de cette déclaration, nous comprendrons beaucoup mieux le sens de ces paroles. Ma chair est marquée par mon ancienne nature. Le je. Vendu au péché, ma chair. Je ne comprends pas ce que veut faire ma nature charnelle. Elle ne veut pas faire ce que je veux et elle veut faire ce que je déteste. On comprend un peu mieux les choses, là. Ainsi, il dit explicitement que le péché est attaché à quoi? À son ancienne nature. Ancienne nature qui veut dominer son âme. C'est un constat. Et c'est un constat que je fais aussi pour moi. Et que je pense que nous pouvons tous faire. Le péché reste attaché à notre ancienne nature. Mais, devant ce constat, que fait Paul? Il crie au verset 24. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui affranchira mon corps de ces mauvais instincts? Parole vivante. Romains 7, 24. Et la solution vient de suite au verset 25. Dieu merci, dit-il. Il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 7, 25. Là, on resitue les paroles dans leur contexte. Quelle grâce, hein? Ainsi, dans Romains 7, Paul décrit uniquement sa nature humaine. Puis, mais lui proclame, vit et nous exhorte à vivre selon notre nouvelle nature céleste, acquise en Jésus-Christ depuis notre nouvelle naissance, et décrite dans Romains 6 et Romains 8, 1, quand il dit victorieusement, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit, Romains 8, 1, second 21. Et on peut mettre un petit signe, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. Il y a deux propositions là. Et entre les deux, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas conformément. Et souvent, on ne retient que la première partie de cette proposition. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour moi. Oui, pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. L'esprit par lequel nous sommes dès de nouveau, cet esprit dont il est parlé. Puis au verset 2, dans la version parole vivante, Paul nous dit « Nous vivons actuellement sous le signe du Saint-Esprit. Cette puissance de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Romains 8, 2, dans la version Parole vivante. Nous vivons actuellement sous le régime du Saint-Esprit. Cette puissance de l'Esprit me soulève. Waouh! Cette puissance de l'Esprit me soulève. Vous imaginez, vous vous sentez soulevé là? Hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Moi qui, aujourd'hui, vis conformément à l'Esprit. Le Saint-Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Est-ce qu'on se rend bien compte de l'action extraordinaire du Saint-Esprit en nous, quand le Saint-Esprit y habite, et surtout lorsque nous le laissons agir? Si on ne laisse pas agir, pourra-t-il agir? Oui ou non? Il ne pourra agir que si on le laisse agir. Puis Paul complète au verset 13, parlant toujours aux chrétiens de Rome, hein, si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, il insiste, ça c'est Romains 8, hein, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, si vous livrez la mort, à la mort les instincts pécheurs du corps, dans la parole vivante, vous vivrez. Romains 8, 13. Alors c'est à la fois interpellant, hein, mais ô combien encourageant. Ainsi, par ces paroles, dans Romains 5, 6 et 8, Paul nous montre sans contestation possible qu'il ne laisse plus le péché régner en lui. Et que nous ne devons plus le laisser régner en nous. Nous exhortant à nous regarder comme morts au péché, à ne plus obéir à ses convoitises, à faire mourir les instincts pécheurs du corps. Il y va fort, Paul, hein? Mais bon. Alors, détestons-nous à ce point le péché, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le psaume 97-10. Détestons-nous à ce point le péché? Si oui, alors le Saint-Esprit nous libérera de ses dominations. Sinon, nous y retournerons, car le Saint-Esprit ne pourra rien pour nous. Détester le péché. Nous rappeler que Christ est mort pour nous. Nous avons chanté tout à l'heure et j'ai noté. Il a été méprisé, rejeté pour nous. Est-ce que ce n'est pas une motivation suffisamment forte pour détester à ce point le péché? Alors cessons de vivre selon notre vieille nature, décrite par Paul dans Romains 7, et vivons comme lui, dans Romains 6 et 8, dans cette puissance de l'Esprit qui me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort, et au règne duquel je décide de ne plus obéir. Amen. Voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Non? Pensez pas? Autre forte raison ou motivation pour rejeter le péché, réjouir le cœur de Dieu. Waouh! Voulons-nous être ainsi bénédiction pour Dieu? Car quand nous réjouissons le cœur de Dieu, nous sommes bénédiction pour Dieu. C'est le thème de l'année. Hein. Est-ce facile? Soyez honnête. Est-ce facile? Non. Et je dis non comme vous. Ça n'est pas facile. C'est notre combat quotidien. On a parlé de combat là pas longtemps. Mais comme on vient de le voir, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, par sa puissance, nous soulève hors du cercle du péché. On va le répéter encore. Vous le connaîtrez par cœur à la fin de la prédication. Il nous soulève hors du cercle vicieux du péché si nous y sommes attentifs. et que nous décidons de l'écouter et de lui obéir, plutôt qu'obéir à notre chair. Là est notre combat. Qui plus est, pour combattre victorieusement, Dieu nous a donné toutes les armes. Ephésiens 6, 14, 17. On dit, nous en a parlé encore, il n'y a pas si longtemps. Et ce ne sont pas des armes fictives ou des armes factices. Ce sont des armes bien réelles, des armes spirituelles bien réelles. Alors n'hésitons pas. Utilisons-les sans modération. Et on reviendra une prochaine fois sur ce côté pratique de cette lutte au quotidien contre le péché. Mais avant, pour compléter ce que dit Paul aux Romains, j'aimerais aussi rappeler ce que dit Jean dans sa première épître à propos du péché et de la confusion, là aussi, que l'ennemi de nos âmes veut susciter dans nos esprits à propos de certaines de ses paroles. Commençons par 1 Jean 3, versets 5 et 6, paroles vivantes. Or, comme vous le savez, Jésus n'a pas péché. Et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. On avait commencé par là. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Oups, oups, oups. Ça, c'est clair aussi et catégorique. Hein. Non ? Oui, mais le croit-on ? Et avons-nous vraiment envie de vivre ainsi ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à mettre sous le tapis cette parole, comme d'autres qui nous dérangent, se créant ainsi quelque part notre propre petite religion ? Car ne pensez-vous pas qu'il y aurait un profond irrespect envers Jésus et contradiction à dire « Merci Jésus pour le pardon de mes péchés, acquis un si grand prix par toi, celui de ta vie, merci d'avoir été méprisé et rejeté pour moi, et malgré cela, continuez à pécher délibérément. » Est-ce qu'il n'y aurait pas contradiction et irrespect profond envers Jésus ? Vous ne trouvez pas ? Alors, comment cette parole s'accorde-t-elle avec 1 Jean 1, 8, 10 qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 8. « Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. » Et sa parole n'est point en vous. Verset 10. C'est tout de même curieux cette parole, non ? Vous ne trouvez pas ? Par rapport à celle qui est au-dessus, que nous voulons partager. Celui qui s'adonne aux péchés prouve par là qu'il n'a jamais connu Jésus. Et l'ennemi de nos âmes, de nous susurrer là encore, hey, « T'inquiète, tu es pécheur, tu pêches, c'est comme ça. » Tu n'y peux rien. C'est ta nature. Et si tu dis le contraire, tu te séduis toi-même. Et en plus, tu fais Dieu menteur. L'argument massue. Non ? Alors Dieu aurait-il deux langages contradictoires ? Assurément non. Vous êtes d'accord avec moi ? Assurément non. Alors examinons cette parole. La deuxième, de plus près. D'abord le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, pas de péché, qu'est-ce qu'avoir du péché ? C'est simplement l'état de notre vieille nature que d'être marqué du péché. Non ? Comme Paul nous le disait dans Romains 7. Puis le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, quelqu'un peut-il dire qu'il n'a pas péché ? Levez la main. Personne. Car effectivement, dans ce cas-là, nous ferions Dieu menteur, qui dit que nous avons tous péché, entre autres dans Romains 3, 23. Mais remarquez que cette parole du verset 10 est au passé et concerne donc le passé. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si bien que ces deux versets nous disent, un, que le péché est attaché à notre vieille nature, deux, que nous avons péché, ce qui est vrai, mais pas que nous puissions encore nous adonner au péché depuis que nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Et on l'a vu là, car en Christ, il n'y a pas de péché, et quiconque demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Alors certains me diront, mais ce ne sont que des mots tout cela. Impossible à appliquer. Qui dit cela? Dieu ou l'ange déchu? Dieu a-t-il vraiment dit? Partir avec cette pensée que c'est impossible, c'est perdre d'avance le combat. Personnellement, je préfère affirmer que ce que Dieu dit est vrai et donc possible. Ignorer cette parole de Jean, la première, ne peut que conduire à une succession continuelle de faux pas et de chutes, et être la porte ouverte au règne du péché dans nos vies. Inversement, ceux qui décident de demeurer en Christ, comme le dit Jean, il leur est aussi donné, par le Saint-Esprit, le pouvoir de renoncer à la suprématie du péché en eux. Amen. Rappelez-vous cette parole de Paul, de Romains 8, 2. Cette puissance de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché. Waouh! Et aussi Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Et quand Paul parle de règne, ou genre de pratique du péché, ils font référence à cet aspect volontaire, habituel, persistant du péché. D'accord ? Alors pourquoi et comment le chrétien peut-il ne pas pratiquer le péché ? Car toujours dans 1 Jean 3, mais cette fois-ci au verset 9, « Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cesse de pécher, dit la Bible en français courant. Car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, puisque Dieu est son Père. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est ce qui distingue clairement les enfants de Dieu. 1 Jean 3, 9, Bible français courant. Et tous les chrétiens nés de nouveau possèdent cette nouvelle nature. Tous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, si nous le sommes, nous possédons cette nouvelle nature. Alors c'est vrai, et je vais terminer par ça, il y aura lutte, souffrance intérieure, mais certainement victoire. Car comme Paul le promet, le péché ne dominera pas sur nous. Si nous avons décidé de ne pas le laisser dominer. Car la puissance de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché. Alors oui, il y aura des loupés, mais qui resteront alors involontaires, non délibérés. Et dans ce cas, si nous reconnaissons nos péchés, jusqu'à les détester, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, 9. On y reviendra. Mais en attendant, sachant qu'une vie de victoire ne vient pas de façon automatique. C'est un combat quotidien, assistés du Saint-Esprit et des armes spirituelles qui nous ont été données. Oui, un combat. Et j'en veux pour preuve tous ces mots utilisés et répétés dans la parole de Dieu. Efforcez-vous, combattez, résistez, luttez, soumettez-vous, demeurez ferme, renoncez, appliquez-vous, persévérez, veillez. La liste est longue, je m'arrête là. Mais si je déteste vraiment le péché, quelle joie quand après le renoncement, la lutte et que la victoire est là, quelle joie et que le Saint-Esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché. Quelle joie de pouvoir ainsi manifester notre véritable amour à Dieu, de réjouir son cœur de Père et manifester notre profond respect pour le sacrifice et l'œuvre de Jésus accompli à la croix. Alors, il n'y a pas de mystère. Comme Dieu renouvelle pour nous ses compassions chaque matin, rendez compte, hein, Dieu nous dit qu'il renouvelle pour nous ses compassions et ses bontés chaque matin. Il est fidèle, hein. Ben, comme lui, nous devons nous aussi, chaque matin, renouveler pour lui notre décision de ne pas pécher, de demeurer en Jésus, de demander à notre âme d'aller puiser ses ressources dans cette nouvelle nature céleste qu'est la nôtre. Alors seulement tout devient possible. Et nous serons alors bénédiction pour Dieu, pour l'Église, pour les autres et pour nous-mêmes. Amen. Soyez bénis.